une prochaine fois pourra se joindre à moi. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile au chapitre de Jean, pardon, l'évangile de Jean au chapitre 11, et nous allons lire les 5 premiers versets. L'évangile de Jean, selon Jean, au chapitre 11, versets 1 à 5. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Amen. Je pense que nous avons tous ici un prénom, ou même plusieurs, hein, juste. Qu'est-ce qui n'a pas de prénom ici? Ça va? Sauvé? Alors, je vais juste m'en assurer, quand même. Je vais compter jusqu'à 3, puis vous allez tous ensemble dire votre prénom, d'accord? Alors, 1, 2, 3. Samuel. Voilà. Ouais, il y en a qui n'ont pas de prénom, j'ai l'impression. Hein. Le prénom, en certains endroits, même plusieurs prénoms, hein, selon les pays aussi, sont nécessaires pour nous identifier. Une fois, je parlais à quelqu'un, puis je disais comme ça, c'était un Espagnol, je disais, « Est-ce que tu connais Jésus ?» Et il me dit, « Lequel ?» Voilà, donc, c'est important de savoir, des fois, d'avoir plusieurs prénoms, d'identifier même la personne. Mais dans le texte que nous avons lu, nous découvrons plusieurs prénoms. Il y a d'abord celui de Lazare. Son nom, Lazare, signifie en hébreu « Dieu a aidé ». C'est une variante d'un autre prénom, Eliezer. Lazare, c'était un ami proche de Jésus. Il l'a accueilli à de nombreuses reprises quand Jésus se rendait à Jérusalem. Et cette histoire, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, c'est son histoire. C'est celle de sa maladie, celle de sa mort et celle de sa résurrection. Mais ce n'est pas de Lazare que j'aimerais vous parler ce matin. On découvre ensuite Marthe. Deuxième prénom, c'est Marthe. Marthe est une femme extraordinaire. C'est elle qui s'occupait d'accueillir Jésus et ses élèves. Ils pouvaient être 4, comme ils pouvaient être 12, 13, 14, on ne sait pas trop combien ils pouvaient être quand ils arrivaient chez Marthe. Marthe est une femme de maison. C'est d'ailleurs ce que signifie son prénom en araméen, Martha, qui signifie maîtresse de maison, hôtesse. Marthe est très active, avec un cœur disposé à servir Jésus. Marthe est aussi une amie proche de Jésus. On se rappelle de Marthe surtout par rapport à ce jour où elle était tout affairée à préparer le repas pour Jésus et les 12. Et que Marie, sa sœur, se tenait au pied de Jésus pour l'écouter. Et la marmite de Marthe avait commencé à bouillonner au propre et au figuré. Hein, et Jésus de lui rappeler que l'important, l'essentiel, n'est pas tout ce que nous faisons pour lui, mais bien de savoir apprécier sa présence. Quand dans le psaume 133, il est dit que l'huile est précieuse. L'huile qui vient, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, la présence manifeste de Dieu est précieuse. Mais ce n'est pas de Marthe que j'aimerais vous parler ce matin. Il y a là, bien sûr, Marie. Ah Marie, quelle femme! Marie, c'est un prénom araméen, Myriam ou Mariam, mais aussi qui viendrait peut-être de l'égyptien ancien. Et qui signifierait, c'est joli comme prénom, aimer. En français, Marie, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, je trouve ça sur Internet, j'ai tapé Marie, et puis prénom Marie, et puis je tombais là-dessus. Marie se trouve être en français l'anagramme du verbe aimer. Hein, vous prenez le verbe aimer, toutes les lettres, vous les mélangez, ça donne Marie. C'est le poète Pierre de Ronsard qui a écrit cette belle phrase, je vous cite, « Marie, qui voudrait votre beau nom tourner, il trouverait aimé. » Marie est ici décrite par l'évangéliste comme celle qui versera du parfum sur les pieds de Jésus et qui les essuiera avec ses cheveux, un acte à la fois prophétique et d'adoration extraordinaire. L'abandon de ce qu'elle avait de plus cher, de plus précieux, pour le maître Jésus. Marie, c'est celle qui se tenait aux pieds de Jésus pour écouter ses enseignements, comme ses autres élèves, ce qui était très rare de la part d'une femme à cette époque-là. Marie, c'est celle qui avait choisi la meilleure part, et personne ne la lui enlèvera. Et tout comme son frère et sa sœur, Marie fait partie des amies intimes de Jésus. Mais ce n'est pas de Marie que j'aimerais vous parler ce matin. On va y arriver, hein ? Il y a Lazare, il y a Marie, il y a Marthe, mais il y a surtout Jésus de Nazareth. Jésus sans qui toute cette histoire ne nous aurait jamais été rapportée. Jésus qui est non seulement l'ami très proche de Lazare, de Marie, de Marthe, ces trois habitants de Béthanie, mais Jésus qui est au centre de tout l'évangile, de toute la Bible, est à l'origine de toute chose. Tout existe par lui, grâce à lui, et tout existe pour lui. Il est le commencement de toute chose et la finalité de toute chose. C'est tellement important de réaliser cela. Jésus est au commencement de ma vie, mais il est aussi le but et la finalité de ma vie. C'est lui qui ressuscite Lazare 4 jours après qu'il ait été mis au tombeau avec donc une seule parole. Jésus le ressuscite. Lazare, sors! Vous l'avez sûrement entendu dire, comme moi, quelqu'un avait dit que si Jésus n'avait pas précisé le prénom Lazare, tous les morts seraient sortis. Oui, Jésus, la résurrection, la vie en personne. Je vais peut-être vous étonner, ce n'est pas directement de Jésus dont je vais vous parler ce matin. Alors, de qui ? Nous avons Lazare, nous avons Marthe, nous avons Marie, nous avons Jésus. Mais il y a encore une personne que je n'ai pas mentionnée et qui apparaît dans notre récit. Verset 3, nous avons lu, les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Elles envoyèrent quelqu'un. On ne connaît pas son prénom, on ne sait pas qui les deux sœurs ont envoyé, et on ne le saura probablement jamais. Mais ce quelqu'un a pourtant joué un rôle primordial dans toute cette histoire de la résurrection de Lazare. Et nous pouvons en retirer d'importantes leçons pour notre vie d'enfant de Dieu. C'est pas vous, mais il me semble que pour moi, en tout cas, ça correspond. Lorsque vous avez un message important à transmettre, le choix du messager est crucial. En l'occurrence, Lazare, c'était l'homme de la maison, celui qui faisait vivre sa famille. De plus, il était un grand ami de Jésus. Et la nouvelle de sa maladie allait avoir de l'importance aux yeux de Jésus. Je ne sais pas si Marthe et Marie étaient conscientes à ce moment-là, mais il s'agissait aussi d'une question de vie ou de mort. Le choix du messager revêtait donc une grande importance. Et le premier critère, lorsque vous choisissez quelqu'un, vous cherchez un tel messager, le premier critère est que ce soit une personne de confiance, quelqu'un de sérieux, une personne honnête, une personne respectable. Vous ne prenez pas le premier venu, ou le rigolo de service, ni quelqu'un connu pour son habitude à déformer, hein, vous savez, ça existe, hein, à déformer les propos des autres, ou encore à exagérer, à amplifier ou même à minimiser les situations. Il importe que le messager retransmette avec exactitude, de manière correcte, ce qui lui est confié. Ce quelqu'un n'avait qu'une phrase, toute simple, à transmettre à Jésus, et il semble qu'il l'ait fait de manière la plus exacte possible. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Quelqu'un de confiance. Et puis, il faut aussi que le deuxième critère important, il faut que le messager croit au message qu'il doit délivrer. Imaginez un peu le messager qui arrive vers Jésus et qui lui dit « Seigneur, tes amis Marthe et Marie te font dire que celui que tu aimes est malade. Mais ne t'en fais pas, rien de grave, elle s'affole pour rien. Je suis quand même venu te le dire pour avoir la paix avec elle, hein, mais aucune raison de t'en faire, pas besoin de venir. » Comme dirait ma fille, t'inquiète, boulette. Je ne sais pas si vous avez réalisé quand les gens vous disent « ne t'inquiète pas » ou « il n'y a pas de problème », c'est là que vous êtes sûr que vous pouvez vous inquiéter et qu'il y aura des problèmes. Mais imaginez un instant que cet homme vienne vers Jésus en disant « mais voilà, rien de grave, c'est tout bon ». Il est tellement important que celui qui transmet un message y croit. Le troisième critère est que le messager soit pleinement conscient de l'importance de son intervention. Alors, quand on lit la Bible, des fois, on ne voit pas toujours ces choses-là. On passe sur certains détails. Mais de Béthanie, où vivaient Marthe, Marie et Lazare, à l'endroit où Jésus se trouvait avec ses élèves, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean avait d'abord baptisé, il y a environ 10 heures de marche. 10 heures, c'est long. Hier, moi, j'ai fait une marche de 2 heures et demie environ. Ben, au bout des 2 heures et demie, vous êtes content d'arriver. Hein? Et puis, dans nos pays, dans nos régions, ben, le soleil cogne moins quand même qu'en Israël. 10 heures de marche, ce n'est pas une mince affaire. Et il y aurait eu de quoi se décourager et de laisser tomber en cours de route. Mais ce quelqu'un est conscient qu'il est chargé d'une mission importante et il ne perd pas de temps, il se met en route immédiatement. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment ou d'une conscience propre par rapport à son activité. Son intervention a réellement joué un rôle primordial dans le miracle qui s'est produit ensuite. Quelles ont été les conséquences de l'action de ce quelqu'un? Premièrement, Jésus est venu et a ressuscité Lazare, mort depuis plus de 4 jours. Mais au verset 45, il est écrit, dans le même chapitre de l'évangile de Jean, il est écrit « Beaucoup de Juifs se convertirent Beaucoup de Juifs qui étaient venus, auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. » Moi, j'ai fait un raccourci. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de Juifs qui étaient venus là ont cru en Jésus. Le rôle de ces quelqu'un avait juste été de mettre en contact Jésus avec son ami Lazare, gravement malade. Son rôle avait été d'établir la connexion entre eux par ce simple message « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Rien de plus. Mais ce quelqu'un, un homme, une femme, on ne sait pas. Ce quelqu'un, une personne de confiance, une personne qui croyait au message qui lui avait été confié et qui en a assumé la responsabilité, a été l'instrument, le relais, le témoin qui a permis à de nombreuses personnes de croire en Jésus. Et ce rôle, cette mission, est aussi la nôtre, mes bien-aimés. D'apporter le message, de mettre les perdus en connexion avec le Seigneur Jésus, qui peut leur donner la vie et la vie en abondance. Il ne s'agit pas tant d'avoir un titre ou de se faire un nom, d'être connu. Voilà, lui, c'est quelqu'un. Quelqu'un. Ça importe peu le titre. Oh, je suis pasteur, je suis aumônier, évangéliste. D'autres aiment le titre d'apôtre, c'est pas mal aussi. Mon Seigneur. Vous savez, quand j'ai commencé mon travail d'aumônerie, alors j'étais présenté comme l'aumônier dans l'entreprise. Et puis très vite, surtout en Valais, j'ai eu droit à toutes sortes de titres. Mon père. Ça c'est marrant aussi, alors je l'appelle mon fils. Monsieur le curé. Mon Seigneur. Monsieur le pasteur. Il y en a quand même qui font la différence entre l'église catholique et évangélique. Puis après, j'ai eu droit au titre suprême, ou presque, sa sainteté. Il y en a un autre, lui, quand il me voit arriver dans le marché, il dit « Ah, Dieu est là !» Waouh ! Là, je lui dis « Oui, mais tu sais, il est toujours avec toi. Il est toujours là. » Le titre importe peu. Et cet homme, voilà, il n'a pas de titre. C'est comme ce quelqu'un, donc. Une personne digne de confiance, qui croit le message qui lui est confié, qui est animé d'une profond sens de sa responsabilité. C'est ça qui compte. C'est ton cœur. Il y a des gens qui confondent le rôle, la mission, avec une position hiérarchique ou une reconnaissance officielle. Nous avons un exemple intéressant de cela dans... Là, c'est une petite... une parenthèse. Nous avons un exemple intéressant de cela dans le second livre des Chroniques. Il est question de deux personnes, principalement, que j'aimerais relever aujourd'hui. La première est Joram, et la seconde, Jéhoiada. Joram était roi d'Israël. Et il dit de lui dans 2 Chroniques, au chapitre 21, verset 20, Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi. C'est quand même quelque chose, hein. Il devint roi. Et il régna 8 ans à Jérusalem. Et la parole de Dieu continue en disant, il partit sans être regretté. Et on l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Quelle tristesse! Joram, devenu roi, avait massacré ses 6 frères cadets et d'autres chefs d'Israël. Il avait poussé les habitants de Jérusalem à l'idolâtrie. Il n'a pas non plus écouté la parole prophétique qui lui avait été adressée par Élie. Et il est mort dans de violentes souffrances et personne de tout le peuple, personne n'a prié pour lui et pour sa guérison. Personne ne l'a regretté. C'est horrible. Quant à Jéhoiada, le témoignage des Écritures en 2 Chroniques 24, il n'est pas très loin, est très différent. Jéhoiada devint vieux et mourut rassasié de jours à l'âge de 130 ans. On l'enterra dans la cité de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël pour la cause de Dieu et de son temple. Deux hommes, deux positions différentes, deux positions officielles différentes. L'un était roi et finira misérablement. L'autre est sacrificateur et recevra les honneurs d'un roi à sa mort. La position hiérarchique importe peu. Ce qui compte, c'est le cœur. Le titre ou se faire un nom importe peu. Ce qui compte, c'est d'être trouvé fidèle comme ce quelqu'un. J'aurais bien aimé connaître son nom quand même. Puis j'aurais bien aimé aussi savoir ce qu'il était devenu après. Qu'est-ce qui... Ouais, je sais pas. Ouais, je suis très curieux. J'essaie d'imaginer plein de choses quand je lis la Bible. Et puis, voilà. Son témoignage aussi, j'en mets entendre son témoignage. Ouais, j'étais là, ce jour-là, on m'a confié une mission, je l'ai fait. Il s'est passé des merveilles. Dans le livre de l'Apocalypse, il est à un moment donné de parler d'hommes et de femmes dont nous ne connaissons ni le nom, ni le prénom. Ce qui me réjouit, c'est que, en tout cas moi, mais je sais que la plupart d'entre nous, nous en ferons partie. Il est dit de cela alors qu'il y a une bataille entre l'agneau de Dieu et les puissances des ténèbres. Il dit que l'agneau les vaincra, donc les puissances des ténèbres, qu'il les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et trouvés fidèles et qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ceux qui ont été appelés, choisis, trouvés fidèles, mais surtout, cette petite phrase extraordinaire, et qui sont avec lui, avec Jésus. Être avec Jésus, les vaincront aussi. On ne connaît pas leur nom, on ne sait rien d'autre, si ce n'est qu'ils ont été avec Jésus. Et c'est là ce qui a fait la force, qui leur a permis, lorsqu'ils ont été appelés, d'être trouvés, choisis et trouvés fidèles, parce qu'ils ont été avec Jésus. Frères et sœurs, il y a un appel dans ce texte, cette parole de Dieu. Il y a un appel ce matin qui s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous. La Bible nous présente de nombreuses personnes comme ce quelqu'un qui n'ont pas cherché à se faire connaître. Il n'a pas commencé à, je pense à cet homme, à vouloir se faire un nom. Il n'a pas lancé son ministère quelqu'un, son association ministère quelqu'un. Eh bien non, on ne saura pas qui c'est. Mais, comme beaucoup d'autres, ils ont fidèlement servi leur Seigneur, leur Dieu, dans ce qu'il leur avait confié comme mission. Est-ce que tu seras un des leurs? Est-ce que tu seras une des leurs? Il y a un appel. Est-ce que tu seras choisi? Il y a beaucoup de gens qui confondent le fait entre être appelé et choisi. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où quelqu'un est appelé et le moment où cette personne est élue? Comment être élu? Ce qui se passe au mieux, c'est de se porter candidat. Si on peut nous appeler, oui, j'ai reçu un appel. C'est beau de recevoir un appel. Et il y a un appel sur chacune de nos vies. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, aux prophètes. Et ouais, peut-être aux diacres, voilà, si on a rajouté celui-là quand même. Chacun de nous a un appel. Mais qu'est-ce qui doit se passer entre le moment où tu as reçu un appel de la part de Dieu dans ton cœur? C'est de pouvoir te porter candidat afin que tu puisses être élu. Personne n'a jamais été élu sans être candidat. D'abord, Dieu t'appelle, est-ce que tu vas répondre, te porter candidat pour être, c'est peut-être simplement ce quelqu'un que Dieu pourra utiliser afin de pouvoir le servir fidèlement. Il est tellement important de veiller à notre cœur, à notre marche quotidienne avec le Seigneur, afin qu'il puisse nous confier sa parole, son message, et que nous devenions, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vivent encore loin de Dieu, des messagers de bonnes nouvelles, de ceux à qui Dieu peut confier son message, parce que voilà, personne digne de confiance, trouver fidèle, personne qui va prendre ce message à cœur, qui va y croire, et qui va avoir cette conscience de sa responsabilité devant Dieu, et devant les hommes. Notre cœur humain est compliqué, hein. Mais c'est tellement bon de pouvoir faire des fois des choses de manière anonyme, de pouvoir servir le Seigneur sans que les gens sachent de qui il s'agit. C'est tellement bon. Et le premier endroit où vous pouvez vivre cela, c'est que vous priez pour les gens. C'est tellement bon de voir le Seigneur agir en réponse à vos prières et personne ne le sait. Waouh ! Que lui ! Que lui ! Et c'est la première étape. C'est la première étape pour devenir ce quelqu'un aux yeux de Dieu. En français, on a cette expression, « Ah, c'est quelqu'un !» C'est vrai, hein? C'est sympa comme phrase. « C'est quelqu'un !» On ne sait pas son nom, « C'est quelqu'un !» Est-ce que vous serez des quelqu'un aux yeux de Dieu? Et puis, il y a ce service humble. Récemment encore, je pensais à ça, j'ai dit, mais qui connaît le nombre? On doit le connaître, mais moi, je ne sais pas. Et là, je suis sûr que la plupart des gens qui se sont convertis au travers, qui sont convertis à Jésus au travers du ministère de Billy Graham, aucun d'eux ne sait le nom de celui qui a amené Billy Graham au Seigneur. Les foules qui se sont avancées, si on leur posait la question, mais qui a amené Billy Graham au Seigneur Jésus? On dira, c'est quelqu'un. Qui a, on doit le savoir aussi, mais si on cherche, peut-être qu'on peut le trouver, mais qui a amené au Seigneur ce pasteur de cette si grande église, David Yonggi-cho, qui l'a amené au Seigneur? Moi, je ne sais pas. Je pense que une grande partie des gens qui se sont convertis au travers de son ministère ne le savent pas. Qui ça? On ne sait pas. Et là, entre nous, alors peut-être que tu n'auras pas, nous n'aurons pas un ministère aussi extraordinaire, aussi visible, aussi épatant, aussi connu que ces hommes-là, ces femmes-là. Mais ce que tu as à faire, fais-le de la part du Seigneur. Remplis ta mission, relève-toi, sois candidat pour ce beau ministère. Et j'aimerais, je ne vais pas prêcher longtemps, je ne sais même pas, je ne vais pas regarder combien de temps, mais ce qui est important, c'est ce qui va suivre, c'est ce que vous allez vivre et ce dans quoi vous allez entrer. Peut-être que vous êtes déjà entré dans ce chemin, peut-être que c'est encore un peu hésitant, peut-être que ça ne s'est jamais fait. Si on va vous mettre à cœur des personnes, il va vous mettre des paroles sur le cœur pour certaines personnes. Et vous allez voir ces gens s'ouvrir au Seigneur. Et puis il y a le principe de la multiplication dans la Bible. Vous allez les amener au Seigneur, puis eux, ils vont amener d'autres personnes au Seigneur. Et puis voilà, il suffit que tu amènes une personne à Jésus, et puis que ce soit des centaines, des milliers d'autres personnes qui découvrent aussi le salut en Jésus. C'est tellement bon. Le Seigneur ne va pas regarder à la quantité, il va regarder à ta fidélité. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. C'est vrai, nous célébrons ce matin ta beauté, ta grandeur, ta puissance. Tu es la personne la plus merveilleuse que nous connaissions. Jésus, tu es l'amour de notre cœur. Tu es l'amour de mon cœur. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Tu es celui qui est mon bien le plus précieux. Et je sais que cela aussi est partagé par mes frères et sœurs ici. Et Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir simplement te livrer nos cœurs et nos vies, de pouvoir te dire, Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour faire ta volonté. Nous sommes là pour simplement réjouir ton cœur. Nous sommes là pour obéir à ta voix. Nous sommes là, Seigneur, simplement pour que tu puisses être glorifié au travers de notre vie. Parce que si cette maladie dont Lazare était atteinte était là pour glorifier ton nom, Jésus, nous sommes là aussi, comme c'est quelqu'un, pour pouvoir être des instruments dans ta main, pour que tu sois glorifié. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, maintenant ici présents, et tous ceux qui entendront ce message, je te prie, Seigneur Jésus, pour que notre cœur soit tout entier à toi. Et l'appel de Dieu ce matin est sur ta vie, et te lèveras-tu pour être cet homme, cette femme, qui, loin de chercher des honneurs ou une position, une reconnaissance officielle, es-tu prêt à me servir, dit le Seigneur, sans que les autres le sachent, sans que les autres t'applaudissent ou te remercient ou te reconnaissent en ton ministère. Est-ce que tu es prêt à me servir de tout ton cœur pour ma seule gloire, dit Jésus. Le Seigneur t'appelle ce matin à répondre. Est-ce qu'il peut te confier son message? Est-ce qu'il peut te confier cette parole qui va bouleverser, changer des vies, qui va amener la guérison et le salut, la délivrance, là où il t'enverra? Je t'invite à répondre dans ton cœur maintenant. Saint-Esprit est là et il va sceller cet engagement que tu prends devant Dieu. Tu vas voir, tu vas recevoir des paroles, tu vas recevoir des visions, tu vas recevoir des choses que tu n'aurais jamais soupçonnées auparavant. Parce que c'est là le privilège de ceux qui abandonnent leur vie entre les mains de Dieu pour le servir. Merci Jésus. Merci de poursuivre ton œuvre dans chacun de nos cœurs et que nous puissions être trouvés, Seigneur, simplement là où tu nous désires, au bon moment, à faire ce que tu attends de nous. Amen. Vous savez, juste terminer par un témoignage qui me revient à l'instant. Un jour, j'étais pas vieux, hein, j'avais 20 ans. J'avais des vacances devant moi. J'avais 2 semaines de vacances et puis je me réjouissais simplement de vivre ces vacances à rien faire et puis à me reposer, aller me promener dans les vignes. J'habitais tout près des vignes et puis profiter de ce bon temps. Voilà. Et puis pour bien commencer ces vacances, je me suis mis à genoux près de mon lit. Je sais pas si votre habitude, moi j'aime bien faire ça. Et puis, c'est pas seulement dans les films où ça se fait. Et puis j'ai dit, Seigneur, merci, je te remercie pour ces vacances que je vais vivre maintenant et je voulais vivre avec toi. Et je me réjouis simplement. Voilà, merci. Et au moment où je dis ça, j'entends clairement le Seigneur me dire, va voir ce jeune homme que tu as croisé à quelques reprises dans la rue. Ouais, je connaissais pas. Je savais pas où il habitait vraiment. Je savais pas qui c'était. Je dis bon, alors Seigneur, si j'ai bien compris, tu veux que je te serve. Bon, ok. Alors je me suis dit, j'ai évacué cette pensée de ce jeune homme. Je me dis bon, je vais aller évangéliser. Voilà, j'ai pensé que je pourrais servir le Seigneur comme ça. Ce jour-là, alors je suis parti, traité dans la main, la Bible dans l'autre. Les premières personnes que je trouve dans la rue, je la prends. Boum. Puis hop, j'ai commencé à apprendre les gens comme ça, les uns après les autres dans la rue. Et puis, au bout du troisième, je suis tombé sur un témoin de Jéhovah qui m'a tenu la patte pendant 1 heure. Et j'étais épuisé. Enfin, quelque part un peu content. Je suis rentré à la maison, je me suis remis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour ce moment où j'ai pu te servir, annonce ta parole. Merci Seigneur. Et là, j'entends, va voir ce jeune homme que tu as croisé. Je dis, mais Seigneur, je suis fatigué là. Demain va voir ce jeune homme. Alors, écoute, c'est comme ça, vaut mieux obéir. Hein, sinon, il ne vous lâche pas. Donc, voilà, hein, vaut mieux. Je dis, ok, Seigneur, j'y vais. Alors, je pars dans le secteur où j'avais croisé une fois ce jeune homme. Et puis j'ai alors j'arrête quelqu'un, puis j'ai dit, voilà, il y a ici un jeune qui est comme ça, comme ça, comme ça, je décris. Est-ce que vous savez où il habite? Je dois le rencontrer, mais je ne sais pas son nom, je ne sais pas où il habite. Et puis, par chance, hein, la première personne sur qui je tombe dit, ah oui, il habite là, dans l'immeuble ici, au premier étage. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le seul appartement sur la gauche. Waouh! Alors j'y vais, je me retrouve devant la porte. Je sonne, la porte s'ouvre, c'est lui. Et puis là, ça sort comme ça, je dis bonjour, je viens de parler de Jésus. comme ça. Je me dis, ouais, soit il me ferme la porte, comme ça, il me claque la porte au nez, soit il me dit gentiment, merci, je n'ai pas envie. Ouais, je pensais que ça allait réagir comme ça. Et puis, il me dit, entre. Ouais, plus ou moins le même âge. Alors, j'entre. Et puis, on s'assoit dans le salon. Puis, il me dit, c'est extraordinaire. J'ai dit, quoi, qui est extraordinaire? Il dit, voilà, je veux devenir curé. Ah, ouais. Et puis, hier, j'ai adressé une prière à Dieu. J'ai dit, Dieu, je veux devenir curé, mais je ne te connais pas. J'aimerais te connaître. J'aimerais connaître ton fils Jésus. Comme ça. J'ai dit, merveilleux. En deux temps, trois mouvements, on parlait de Jésus. J'ai dit, maintenant, il faut que tu naisses de nouveau. Ah, j'ai repris le texte, vous connaissez bien, de Jésus avec Nicodème. J'ai dit, écoute, voilà, tu as de la religion, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu naisses de nouveau. Et après, il me dit, comment je dois faire? J'ai dit, c'est pas compliqué, tu te mets à genoux par terre, là, maintenant. À genoux. Et tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Et puis voilà, en une heure, ce jeune avait donné son cœur à Jésus. Et puis, après, il me dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, maintenant, il faut que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Et puis, ça s'est pas fait tout de suite. Mais, voilà, je priais à distance, il voyait rien. Et puis, un jour, il me dit, il faut que je vienne dans ton église. J'ai dit, ok, tu viens. Et puis, ce soir-là, on avait justement un évangéliste de passage qui a parlé sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est le jour, ça marche. Et puis, il y a tout le monde qui prie pour lui. Et puis, il n'y a rien qui se passe. J'ai dit, non, Seigneur, c'est ce soir. Ce soir, il s'était converti quelques jours, deux, trois jours auparavant. Et puis, d'un seul coup, il a explosé, il a commencé à parler en langue. C'était extraordinaire. Tout le monde a quitté l'église. J'étais seul à rester avec lui. Et puis, il n'en finissait plus. Je me dis, on va louper le dernier train. Et puis, après, j'ai quand même sorti. Il titubait, il était ivre, mais complètement pété. Mais il était là, et puis il chantait, il riait, et puis il dit, Pierre Mini, c'est toujours comme ça? Et puis, je dis, pas toujours, mais ça arrive. J'ai dit, mais, puis jusque chez lui, je l'ai ramené jusqu'à la maison, j'ai dit, mais qu'est-ce que ses parents vont penser? Et puis voilà, ce jeune s'est tourné vers le Seigneur complètement. Un jour, il me dit, écoute, je veux plus devenir curé, je veux devenir pasteur. J'ai dit, ouais, extraordinaire. Et puis il s'est fait baptiser, il est allé à l'école biblique, maintenant il sert le Seigneur. Pour les gens qui vont se convertir au travers de son ministère, qui vont venir au Seigneur, je serai ce quelqu'un. Et puis je m'en réjouis. Et je suis sûr que vous allez avoir cette joie dans le ciel aussi, vous allez arriver dans le ciel. Et il y aura plein de quelqu'un dans le ciel. Plein, plein, plein de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, mettez-vous à sa disposition. Soyez candidat. Merci.